Bonsoir à toutes et à tous. Des températures records, Bordeaux a pulvérisé son record de 2003 avec cet après-midi une température de 41,2 degrés précisément. 80 départements sont en vigilance orange canicule, là aussi c'est un record. Et quasiment autant sont soumis à des restrictions d'eau. Des agriculteurs qui ne savent plus comment nourrir leurs bêtes. La canicule est de retour et malheureusement le phénomène devient récurrent. Alors c'est dans ce contexte que les députés recevaient aujourd'hui à l'Assemblée nationale la militante suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, qui a appelé les politiques à agir plutôt que faire semblant d'agir. Mais face à ce dérèglement climatique mondial, le mois de juin a connu les températures les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. Et bien face à cela, on voit émerger de nouvelles formes de militantisme plus radical, comme ce groupe appelé Extinction Rébellion, qui revendique le droit de déranger et prône la désobéissance civile. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Canicule, état d'alerte générale ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Nous accueillons Arnaud Gossemand, vous êtes avocat spécialiste en droit de l'environnement. Françoise Vimeux, vous êtes climatologue à l'Institut de recherche pour le développement. Et enfin Daniel Bois, politologue spécialiste de l'écologie politique, vous êtes directeur de recherche émérite au CEVIPOF, c'est le centre de recherche en politique de Sciences Po. Françoise Vimeux, on va commencer avec vous, la climatologue. Ce à quoi on assiste en ce moment, on l'a oublié, c'est déjà arrivé par le passé, ou vraiment, ce sont quand même des phénomènes hors normes et qui malheureusement vont se répéter.
Alors là, c'est des phénomènes hors normes, mais pas surprenants, en tout cas pour la climatologue que je suis, pour notre communauté. On a quand même là deux canicules qui se suivent. Donc on avait expliqué que les canicules, les vagues de chaleur seraient plus fréquentes. Donc là, on le voit, on en a deux de suite. Lorsqu'on regarde au XXe siècle, depuis le milieu du XXe siècle, on a eu à peu près 40 vagues de chaleur et plus de la moitié après les années 1980. Donc on voit vraiment que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. C'est des vagues de chaleur qui sont de plus en plus intenses. En 2003, on avait battu des records sur le territoire métropolitain. On a des stations de Météo France qui avait enregistré jusqu'à 44 degrés dans le sud de la France. On n'avait jamais vu ce style de température. Et là, au mois de juin, en 2019, on vient de rebattre des records jusqu'à 46 degrés dans le Gard et dans l'Hérault sur plusieurs stations. Et en fait, il n'y a pas que sur le territoire métropolitain où on bat des records. En Inde, on a atteint 50 degrés. L'année dernière, en Algérie, plus de 50 degrés sur certaines stations. Et puis, est-ce que ça va continuer ? Ben oui, parce que
ce que je veux dire par là, c'est que là, il y en a eu deux qui se sont suivis. Et on a longtemps eu l'impression que le réchauffement climatique, c'était un problème lointain, que c'était au fond un problème qui se posait maintenant, mais qui allait toucher nos enfants. On s'aperçoit que ça nous touche, nous. Et on se dit, mais ça va être pire en 2020, pire en 2021. On a l'impression que ça s'accélère et que ça, on ne l'avait pas prévu.
Alors, on ne l'avait pas prévu, si. Je pense que les climatologues avaient alerté sur le fait que potentiellement, depuis les années 70, les choses s'accélèrent, le réchauffement climatique s'accélère. On n'aura pas forcément des vagues de chaleur tous les ans, mais par contre, pour le milieu du siècle, on pense qu'on en aura 2 à 6 fois plus et qu'en moyenne, elles pourraient être de 1,5 degré à 2 degrés plus chaudes que ce qu'on vit là en 2019. Et ce qui est assez aussi intéressant, et donc je le dis maintenant, parce qu'après peut-être on dira on ne l'avait pas dit, c'est qu'on pense que ces vagues de chaleur, elles vont être plus longues, pas seulement quelques jours, mais une semaine, comme en 2003 ou un peu plus.
Ça avait duré combien, rappelez-nous, en 2003 ?
En 2003, c'était une dizaine de jours. D'accord. Et puis, on pense qu'elles ne vont pas forcément arriver au cœur de l'été, qu'elles peuvent s'étaler entre mai et octobre. Et là, on en a vraiment un bel exemple avec la première vague de chaleur au mois de juin, qu'on a dit très précoce, mais ce n'est pas une surprise pour nous, en fait. On pense que la période où ces vagues de chaleur potentiellement vont émerger, elle va s'étaler vers le printemps et vers l'automne.
Alors, Bruno, je dis, face à un tel phénomène hors norme qui concerne le globe, on comprend que les politiques soient totalement démunis par un problème qui les dépasse. On peut le comprendre, ça.
Ils sont démunis ou en tous les cas, ils ont longtemps d'abord pensé que c'était pas si urgent que ça pouvait une bonne partie de la classe politique mondiale qui, au fond, on l'a bien vu, puisque on est à la COP 24, il y a eu plusieurs sommets qui s'appelaient les sommets de la Terre. Et c'est vrai que dans le milieu des années 90, il y avait la prise de conscience, même si elle a eu lieu à partir de 1992 avec le sommet de Rio. C'est vrai qu'ils ont d'abord imaginé que c'était peut-être pas si urgent que ça. Ensuite, ils ont eu beaucoup de mal à se mettre d'accord. Et puis, finalement, le premier accord, il a quand même fallu attendre la COP21. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, à Paris, pour qu'il y ait un premier consensus, petit consensus mondial des hommes politiques qui gouvernent les principaux pays de la planète. Et puis, d'ailleurs, on a vu qu'avec Trump, une partie de ce consensus avait volé en éclats. C'est vrai qu'il y a cette incapacité de la classe politique, finalement, à appréhender cette transition vers une économie décarbonée autrement que comme un enjeu de pouvoir. C'est un petit peu ça qui se pose. On le voit ici d'ailleurs à l'échelle de notre petite classe politique qui se renvoie la polémique sur Greta Thunberg au fond était assez dérisoire compte tenu de ce que ça représente comme enjeu. On en discutera sans doute. Il y a sa personnalité qui peut être gênante, on peut en parler, mais est-ce que c'est ça le plus important au fond?
Les politiques font semblant d'agir, ils n'agissent pas.
Oui, c'était un message.
C'est vrai,
doute.
Ça ou pas? Vous avez, au fond.
Moi, je pense que oui. Je pense que, franchement, il faut bien constater qu'ils peuvent se mettre d'accord dans une COP. Et puis, quand on est au niveau national, qu'il faut prendre des mesures, eh bien, ils agissent peut-être pas suffisamment. En tous les cas, on le voit bien. Je lisais ce week-end une étude de l'IFOP parue dans le journal du dimanche. Il y a un quart des Français qui jugent positif le bilan de l'actuel gouvernement en matière d'écologie. On aurait pu penser qu'il serait peut-être un peu plus bienveillant. Il y a un an, il y en avait un sur deux. Donc, on voit quand même que ça se dégrade. C'est-à-dire que, bah évidemment, madame le disait à l'instant, compte tenu de ce qu'ils vivent, qui commence à être de plus en plus palpable, ce réchauffement, eh bien, les citoyens se disent
la réponse
n'agit
n'est
pas
à la
assez
hauteur.
Vite. Alors après, on pourra discuter aussi des paradoxes des citoyens eux-mêmes qui refusent un certain nombre de mesures. Mais ça, c'est toute la difficulté de l'action politique, je dirais, au jour le jour, par rapport aux grands enjeux devenus urgents, notamment la lutte contre le réchauffement climatique.
Mais Daniel Bois, est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des recettes, des pays qui montreraient la voie et qui seraient exemplaires? Et on se dirait, essayons de faire comme fait ce pays.
Il n'y a pas de paradis écolo. Il y a des pays qui ont suivi des politiques dans le domaine des énergies renouvelables, par exemple, beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus efficaces. On trouverait des pays au nord de l'Europe en particulier où ça s'est mieux passé pour les énergies renouvelables. Au Portugal aussi, par exemple, pour aller au sud de l'Europe, pour changer un petit peu. Il y a un pays d'Amérique du Sud, j'oublie, mais je suis sûr que mon voisin le sait.
Il y a beaucoup d'énergie peut-être hydraulique, non? Avec les fleuves.
Oui, non, mais aussi éoliennes, etc., avec tous les problèmes que posent ici ou là les éoliennes. Donc il y a des pays qui ont été plus dynamiques sur le fait d'aller vers le pourcentage de NR souhaitable. Mais il n'y a pas de paradis. Il y a aussi des pays, je pense à la Suède, qui ont eu des politiques publiques assez efficace, assez inventive sur la taxe carbone, de la faire passer, la taxe carbone, qu'on n'arrive pas vraiment à la faire passer au niveau de la société. Mais voilà, il n'y a pas de paradis. Puis il faut se rendre compte que, quels que soient les pays, il peut y avoir des changements de majorité, il n'y a pas d'effet cliqué, on peut revenir en arrière. Il peut y avoir un changement de majorité qui fait que la nouvelle majorité n'est pas convaincue de la politique environnementale de la précédente. Donc rien n'est
même
à l'abri.
Même si elle s'impose maintenant à tous les partis politiques.
Encore une fois, je crois qu'il peut très bien y avoir des retours en arrière. Ça peut
en Australie, on l'a vu.
Bah, par exemple,
les Australiens ont voté pour un gouvernement quasi climato-sceptique.
Parfaitement, absolument, ça peut très bien arriver.
Arnaud Gossement, est-ce qu'on attend aussi pas trop des politiques? On a l'air de dire, au fond, le réchauffement climatique, moi je ne fais rien, je continue de rouler dans ma voiture. Et c'est le problème d'Emmanuel Macron, pour faire simple.
Le problème, c'est que c'est une question extrêmement complexe, parce qu'ils doivent intervenir sur plusieurs fronts. Le problème, c'est d'abord d'agir sur l'adaptation au changement climatique, puisque là, il est là, ce changement climatique, et il faut agir partout. Il faut agir sur les monocultures de maïs. Il faut agir également sur l'urbanisme, l'aménagement des villes, la végétalisation contre le bitume. Je pourrais multiplier les exemples, en fait, où le politique est appelé à intervenir pour prendre des décisions dans tous les sens pour s'adapter au changement climatique. S'adapter ne suffit pas. Il faut atténuer aussi ce changement climatique.
C'est tellement gigantesque qu'on a envie de baisser les bras.
Parce que ce changement climatique, et je parle sous contrôle, en fait, il est lancé. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans des politiques d'atténuation également. Et puis, il va falloir aussi penser les conséquences irrémédiables du changement climatique. C'est évidemment la crise climatique qui frappe ces personnes qui traversent la Méditerranée et qui meurent par milliers pour frapper aux portes de l'Europe. On voit qu'en fait, ils sont appelés à intervenir sur tous les fronts, alors qu'ils ont d'habitude, ils savent en général intervenir sur un sujet à la fois. Par exemple, on fait une loi sur l'énergie, une loi sur l'agriculture. Alors que là, on leur demande des réponses globales à tous les niveaux, sur du court et du long terme. Or, en général, le politique, c'est ce qu'il sait faire, c'est aussi du court terme jusqu'à la prochaine élection. Ce n'est pas une critique, ce que je fais. C'est notre système de décision et notre capacité à faire ensemble des choix collectifs qui est interrogé par cette, notamment canicule, le changement climatique. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle beaucoup du soleil, on parle beaucoup coup de cette vague de chaleur. Mais on ne parle pas de ce qui fait amplifier cette vague de chaleur. On ne parle pas aussi de cette politique de la ville qui est totalement obsolète et qui faut absolument
avec
revoir.
Du béton, des places bétonnées,
par exemple,
etc. Voilà.
Et la dernière chose aussi, c'est on ne parle pas de toutes les conséquences, la pollution à l'ozone qui frappe Paris, par exemple, aujourd'hui.
Parce que dès que la chaleur monte, l'ozone apparaît, hein, c'est ça ?
Alors, il faut que je parle sous contrôle.
Mais Françoise Vimeux, non, moi j'avais juste une question. Coup de baguette magique, puisqu'on parle de 2050. Nous sommes en 2050. Si nous sortions dans la rue, qu'est-ce qui serait spectaculaire ? En quoi l'endroit où vivront nos enfants sera différent de l'endroit où nous vivons aujourd'hui ? Par exemple, transportez-nous sur une plage de la Méditerranée ou le centre-ville de Bordeaux, tiens, où il y a eu un record.
Je pense que nous n'irons plus forcément sur les plages de Méditerranée en 2050, au mois de juillet ou au mois d'août, ou dans le centre-ville de Bordeaux, parce que les températures sont vraiment très élevées et que ça sera compliqué d'y résister. Je pense aussi qu'il y aura
On ira en Bretagne ou en Auvergne.
Je ne sais pas où nous irons, mais à moins que vous aimiez beaucoup la chaleur, mais les projections... Alors, vous disiez, je fais un aparté, vous disiez, on a envie de laisser tomber, voilà... Mais pas du tout, parce qu'en fait, les derniers rapports du GIEC, en particulier celui qui est sorti l'année dernière, montrent d'abord qu'on a encore le choix entre un monde à 1,5-2 degrés et un monde à 5-6 degrés. Et c'est très, très différent, hein, parce que là, on parle de différence de température d'une année à l'autre. Hein, parce que souvent, les gens me disent, mais oui, mais le matin, je sors, il fait 20, à midi, il fait 35, la Terre s'est pas écroulée. On ne parle pas du tout des mêmes différences de température. Donc, un monde à 5-6 degrés en plus par rapport au XXe siècle, c'est énorme. Et donc, ce que montre le rapport, c'est qu'on a encore le choix de décider l'amplitude, hein, du changement climatique avec, effectivement, des décisions plus ou moins drastiques qui doivent être prises pour ça. Et donc, à part des mises à part, je crois que le monde sera différent à la fois en termes de température, aussi en termes de pluie, de précipitation, de sécheresse, mais aussi d'événements extrêmes de pluie. On l'a vu récemment dans le sud de la France, on pense par exemple que quand il y aura des événements extrêmes de pluie, leur volume pourra être de plus 20%. Donc déjà aujourd'hui, on voit les dégâts que ça fait. Je pense que là, il va vraiment effectivement falloir s'adapter.
Donc des orages et des tempêtes plus violentes.
Oui, parce que l'atmosphère peut contenir plus d'eau et quand elle va relarguer cette eau, il y en aura beaucoup plus à faire tomber au sol.
Alors la France vit donc un nouvel épisode de canicule avec son lot de températures record, on l'a dit, un 41,2 à Bordeaux cet après-midi, nouveau record absolu pour Bordeaux. Et ça devrait continuer jusqu'à jeudi, hein, jeudi où il y aura un pic de chaleur. Face à cette vague, les autorités sont contraintes de multiplier les mesures de prévention et les appels à la prudence. Sujet de Laura Rado et Pierre Millet-Bellando.
La France suffoque. Pour la deuxième fois en moins d'un mois. Comme en juin dernier, le mercure atteint des records aussi bien la nuit qu'en journée. 41 degrés enregistrés aujourd'hui à Bordeaux, où les rues sont plutôt clairsemées.
Le manque d'air, ouais, surtout. Enfin, là, je vais surtout rentrer chez moi, fermer toutes les fenêtres et puis sortir. Voilà, avec le ventilateur et c'est tout. Surtout pas être dehors.
Et le nord de la France n'est pas non plus épargné. Les masses d'air chaud devraient faire grimper le thermomètre à des niveaux inédits, notamment en ville.
En région parisienne, on prévoit autour de 42 degrés pour la journée de jeudi, ce qui serait un record historique, puisque actuellement le record est de 40,4, c'était en juillet 1947. Donc ça, c'est une valeur emblématique, mais on pourrait également s'approcher des 39-40 degrés à Lille, ce qui n'est jamais arrivé non plus. On pourrait avoir aussi autour de 39 degrés ou pas loin de 40 en Alsace, ce qui n'est jamais arrivé non plus. Donc on voit que de très nombreuses régions, notamment de la moitié nord et jeudi, disons du centre du pays au nord, vont être concernées par des températures inédites.
Si l'épisode de chaleur sera court, 3 jours seulement, il s'annonce intense et surtout étendu. Avec là aussi un record, 80 départements placés en alerte orange par Météo France. Dans ce contexte, les membres du gouvernement sont sur le pont. La ministre de la Santé a activé la plateforme d'information Canicule Info Service et répète les précautions d'usage.
Nous demandons réellement d'éviter tout effort sportif et de faire très attention au risque de noyade.
Sans surprise, cette canicule s'accompagne d'une hausse de la pollution à l'ozone. Résultat, Paris et Lyon ont imposé aujourd'hui la circulation différenciée, mesure qui pourrait être reconduite. Autre conséquence exceptionnelle, dans le Lot-et-Garonne, EDF annonce la mise à l'arrêt de 2 réacteurs nucléaires. L'eau du fleuve habituellement utilisée pour les refroidir affiche une température déjà bien trop élevée. Et pendant que le mercure s'envole, la grave sécheresse se prolonge depuis le mois de juin. 73 départements sont concernés à différents niveaux par des restrictions d'eau. Dans l'Hérault, des vignes et des grappes de raisins entièrement brûlée par le soleil. Ici, dans le Loir-et-Cher, des prairies et pâturages desséchés. Les premières victimes sont évidemment les agriculteurs, que le ministre est venu soutenir face aux caméras hier.
Tous les trois jours, moi je veux un point précis de l'évolution de la sécheresse, l'évolution des cultures, et on verra ce qui se passera. Là nous sommes chez M. Vernon, et nous avons vu que le maïs, il n'y a aucun grain, donc ça ne fonctionnera pas.
Alors le gouvernement sonne la mobilisation en faveur du monde agricole. Dès le mois d'octobre, 1 milliard d'euros d'aides européennes vont être débloqués en avance. Les agriculteurs de 33 départements seront en outre autorisés à faucher leurs jachères afin de nourrir leurs bêtes. Pénurie d'eau, canicule, pollution, les scénarios du GIEC sur le dérèglement climatique prévoient une amplification de ces phénomènes. Alors l'État met-il suffisamment de moyens sur la table pour s'y préparer ? Selon ce sénateur, co-auteur d'un rapport sur le sujet, la France est loin d'être prête à affronter ce choc.
Il est très clair qu'aujourd'hui, on part au plus pressé. Les dernières mesures nécessaires du ministre de l'Agriculture sont des réponses d'urgence, ce ne sont pas des réponses d'accompagnement d'une mutation de l'agriculture française. Le problème derrière, c'est que ça coûte très cher. C'est-à-dire que muter une société, ça ne se fait pas sans efforts financiers, sans réorientation de subventions, sans réorientation de la fiscalité. Et effectivement, on voit bien que le gouvernement aujourd'hui, comme les précédents, sont dans ce moment de contradiction entre, je crois, une prise de conscience maintenant réelle et un effort à faire qui va à l'encontre de toutes les orthodoxies financières.
Face à l'augmentation inéluctable des températures, l'élu prône des mesures concrètes d'adaptation comme une utilisation plus économe de l'eau ou des changements dans les modes de production agricole. L'objectif affiché du rapport, convaincre le gouvernement de mettre en place une loi d'envergure sur le dérèglement climatique.
Alors, question téléspectateur. À l'instar des habitants des pays chauds, va-t-on s'accoutumer à vivre avec la chaleur ? Françoise Vimeux, finalement, en Espagne, il fait plus chaud, ou au Maroc, la vie est plutôt agréable, d'ailleurs.
Alors, je ne suis pas sûre que dans certains pays d'Afrique du Nord, la vie soit agréable. C'est-à-dire que les gens se sont habitués, se sont adaptés, avec par exemple des horaires de travail adaptés, le matin et puis plus tard le soir. Mais est-ce que c'est confortable ? Je ne pense pas. Moi, je travaille avec.
Mais est-ce que c'est ce vers quoi on va ? On vit, je veux dire. Dans...
Alors, on va devoir s'adapter d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que ça sera sur les heures de travail ? Est-ce qu'on sera invité à faire du télétravail pendant les canicules pour rester chez soi, éviter de sortir, éviter de prendre les transports en commun ? Vous prenez le RER en ce moment, il y a des RER qui ne sont pas climatisés. C'est inadmissible. Hein. Là, il va vraiment falloir progresser sur les transports en commun pour plusieurs raisons, pas que pour la climatisation. Donc, moi, je travaille avec des collègues nigériens et ce n'est pas confortable. Hein, pour...
Alors. Résultat concret, en tous les cas, et on l'a vu dans le sujet, c'est le manque d'eau. 80, les trois quarts des départements sont en restriction d'eau. Et on apprend qu'en fait, la pluie, il pleut moins. 20% de pluie en moins. Pourquoi il pleut moins ?
Alors en fait,
la pluie ne tombe plus sur notre douce France.
Alors quand on change le climat, on change pas que la température, on va changer d'abord les zones géographiques où il y a des pluies, la répartition. Il va pleuvoir plus à certains endroits et moins à d'autres. Et sur le territoire métropolitain, on voit que durant l'été, il pleut moins. Il pleut un tout petit peu plus au nord de la France pendant l'hiver, mais en moyenne, c'est quand même un peu moins de pluie. Alors pourquoi il pleut moins ? Ben une des principales raisons, c'est que comme on a une atmosphère plus chaude, elle a la capacité de garder davantage la vapeur d'eau. Et tant qu'on n'a pas atteint cette saturation, la vapeur d'eau, elle reste dans l'atmosphère et puis elle va retomber à un moment donné, mais beaucoup moins que ce qu'on a eu dans le passé. Voilà. Par contre, ce n'est pas contradictoire avec le fait qu'on peut avoir des événements extrêmes de pluie, des événements orageux, parce qu'une atmosphère plus chaude, c'est aussi une atmosphère plus chaotique, pour faire simple. Et donc, des orages plus facilement déclenchables. Et donc, voilà, beaucoup d'eau en peu de temps. Et ça, on a du mal à gérer aussi. Et ça ne va pas améliorer, par exemple, la sécheresse des sols, d'avoir beaucoup d'eau en peu de temps.
Mais c'est significatif, le fait qu'il pleuve moins, parce que, je veux dire, dans la littérature, Marcel Pagnol, on voit très bien, de l'eau, elle a toujours existé pour les agriculteurs.
Alors, il y a toujours une variabilité. Le climat a toujours varié, en fait. Il y a toujours eu des années avec plus d'eau, des années avec moins d'eau. Mais la tendance estivale sur le territoire métropolitain, c'est effectivement qu'il y a moins de pluie, en particulier dans le sud-est de la France. Et après, il faut faire attention au ressenti. Chacun a son idée sur il pleut plus, il pleut moins. Et je pense qu'il faut vraiment la faire attention et se baser sur les observations météorologiques.
Alors, la réponse des politiques, Bruno Jeudy, on a vu le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, dire ben voilà, on va ajouter 1 milliard. Alors, c'est une avance, hein, on va avancer les avances des aides européennes. Est-ce que c'est à la hauteur des problèmes des agriculteurs ?
Ça a été dit dans votre reportage, c'est hélas un film qu'on revoit régulièrement depuis maintenant une dizaine d'années, une année sur deux ou une année sur trois, le ministre de l'Agriculture mobilisé tout l'été, allant quémander des aides auprès de l'Union européenne pour venir secourir les agriculteurs, les céréaliers, les éleveurs bovins qui n'ont plus de quoi nourrir leurs bêtes. Et, alors il y a tout un système aussi entre eux, ils arrivent à s'entraider. Mais c'est vrai que pour les pouvoirs publics en France, la question de la sécheresse, maintenant, revient régulièrement. Ça coûte cher. Et au fond, on soigne un problème qu'on refuse finalement de régler véritablement. C'est la mutation de l'agriculture qu'il faut évidemment entamer. Et évidemment, tout ça ne peut se faire que sur la durée. C'est très compliqué de changer un modèle agricole comme celui de la France, qui est un modèle qui a été formidablement
la France qui
bénéficiaire. Grande puissance agricole, grande puissance productiviste. Et évidemment, il y a des difficultés avec maintenant ces modifications climatiques, puisqu'il y a un certain nombre de cultures. Et bien évidemment, le maïs nécessite d'avoir beaucoup d'eau, on sait qu'il faut arroser, qu'il n'y en a pas assez, que le système des retenues d'eau est par ailleurs contesté par peut-être à juste raison d'ailleurs par les mouvements écologistes.
Le barrage de Sivens.
Donc c'est toute une économie agricole qui aujourd'hui est touchée de plein fouet, mais j'allais dire, c'est pas seulement conjoncturel, c'est structurel, c'est devant nous, et finalement ce pouvoir, comme les précédents, se retrouve pris dans la même situation d'urgence. Le ministre de l'Agriculture va passer un été difficile. Il a des dossiers très compliqués devant lui.
C'est un job épouvantable maintenant d'être ministre de l'Agriculture.
C'est surtout qu'en plus, là, vous rajoutez là-dessus la crise avec les traités CETA et Mercosur devant nous qui mettent la profession.
Cet après-midi, disons-le d'ailleurs, le CETA, donc l'accord de libre-échange avec le Canada, a été voté à l'Assemblée nationale.
Absolument, qui met des filières sous tension et qui globalement peuvent d'ailleurs, ça c'est un autre débat, on pourrait faire une émission entière sur les traités, sont par ailleurs tout à fait discutables compte tenu sans doute des modifications climatiques qui sont devant nous.
Daniel Bois, on a entendu dans le sujet un sénateur dire que la France n'était pas préparée au choc climatique qu'il attendait pour 2050. Bah, l'agriculture en est un exemple. Par exemple, le maïs, il va falloir abandonner, mais il y a d'autres choses qu'il va falloir abandonner.
Il y a d'autres choses dans les comportements des gens, dans leur vie quotidienne qui vont changer. On parlait des transports, du RER, etc. Donc la question, c'est comment les gens vont accompagner ou pas accompagner ce changement, comment ils vont se résoudre éventuellement à modifier leur comportement pour essayer de pallier un petit peu au risque climatique. Et là, les enquêtes nous disent que c'est pas simple, parce que autant, rappelez-vous, on préconisait de pas dépenser trop d'eau pendant qu'on se lave les dents, etc. On n'en est vraiment plus là, quoi. Et quand on pose des questions, l'ADEME chaque année fait une enquête sur la perception du réchauffement. Est-ce que les gens sont décidés ou ne sont pas décidés à faire, ou font eux-mêmes déjà ? On s'aperçoit qu'il y a une certaine bonne volonté. Hein, je veux bien essayer de manger moins de viande un petit peu, je veux bien essayer. Mais quand on arrive à un point fort, qui est par exemple le point des transports, mais il y a des impossibilités structurelles pour les gens.
C'est-à-dire quand on dit aux gens de...
Pardon ?
On l'a vu avec les gilets jaunes.
Ben oui, quand il s'agit de dire c'est mieux les transports en commun, très bien à Paris, ce n'est pas un problème vraiment à Paris. En dehors que le RER est un peu chaud, ce n'est pas vraiment un problème de prendre un taxi, de prendre, etc. Quand on est dans des petites villes, comment on se passe de voiture ? Et c'est ce que répondent les gens dans les enquêtes. Moi, il me faut deux voitures à la campagne parce que, ou dans une petite ville, il n'y a pas de transport en commun. Et une voiture pour aller travailler, une voiture pour emmener les enfants à l'école. Et là, il y a des contraintes qui sont des contraintes structurelles.
Donc l'écologie sera forcément punitive. C'est faux de dire oui, de rêver d'une écologie incitative.
J'aime pas trop le mot punitif. Je suppose qu'il y a une faute de la part des gens. Il n'y a pas une faute de la part des gens.
Ce sera forcément contraignant.
Contraignant.
Voilà. L'écologie sera contraignante.
Punitif, non. Contraignant. Oui, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est contraignant. C'est bien les gens ont ressenti comme ça. Et quand il y a des points un peu durs, comme le problème de la taxe carbone, de l'augmentation de l'essence, on voit que c'est une vraie contrainte.
On n'a plus un ticket illimité sur le carbone, sur l'eau, sur l'agriculture, etc. Il va falloir apprendre.
Il y a des contraintes, sans aucun doute. Mais je crois qu'il faut éviter le mot punitif. Ce n'est pas de la faute des gens si c'est comme ça. Ils y sont pour rien, les pauvres, simplement. On ne peut pas penser que tout ça sera absolument sans contrainte et sans problème. Il faut réussir à garder une bonne volonté de la part des gens. Je pense qu'il y en a. Maintenant, il faut qu'ils aient une possibilité réelle de réagir aussi.
Arnaud Gossement, alors je n'allais pas dire que c'est une consolation, mais c'est un problème mondial. Est-ce que les climato-sceptiques, on parlait de l'Australie tout à l'heure, qui a, les Australiens ont voté pour un gouvernement climato-sceptique qui, à la manière d'un Donald Trump, veut relancer l'industrie du charbon. Est-ce que les États-Unis, quand même, l'électeur américain ne va pas être rattrapé lui aussi par cette canicule et ça sera très difficile dans les années à venir de rester sur une position, sur une politique climato-sceptique et de dire moi, je fais du charbon, ça ne me concerne pas le réchauffement climatique.
C'est la première fois dans notre histoire que nous sommes confrontés collectivement à un même problème mondial. C'est vraiment une première dans notre histoire. Et les conséquences ne seront pas qu'environnementales, elles seront également sanitaires. Quand on parlait par exemple de confort ou de punitif, ce qui va être vraiment punitif, c'est par exemple le développement de certains nouveaux microbes, de certaines maladies. Le permafrost, par exemple, qui se trouve au nord des États-Unis, aux îles Arctiques, cette couche de terre gelée qui est en train de fondre avec 70 ans d'avance par rapport aux prévisions les plus pessimistes, pourrait relarguer dans l'atmosphère, je parle sous contrôle, autant de gaz à effet de serre qui s'y trouvent déjà. Et notamment, on pense qu'un certain nombre de microbes, de virus, voire même d'animaux s'y trouvent, en état d'hibernation par exemple, et pourraient à nouveau, dans des conditions qu'on ne connaît pas encore bien, se redévelopper. Donc en fait, on a une mutation en fait, de notre environnement, avec des conséquences environnementales et sanitaires, certaines prévues, d'autres non encore, auxquelles il va falloir s'adapter en temps réel. Et ça, c'est une vraie menace. Et c'est ça qui est punitif. Alors effectivement, il peut y avoir des jeux d'égoïsme. Alors les États-Unis, c'est un petit peu complexe, parce que le président des États-Unis n'est pas seul à décider en matière climatique. Et en fait, le bilan carbone global des États-Unis...
Parce qu'il y a les États. La Californie est très en avance.
La production d'énergie dépend des États fédérés, par exemple. Donc les rhodomontades de Donald Trump n'ont pas... Elles sont terribles, mais elles n'ont pas autant d'effet que ce que lui veut bien le dire. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que même si l'Australie recule, le Canada n'est pas forcément en flèche, eh bien quand même, la COP21, c'est qu'à un moment donné, l'ensemble des 194 États du monde ont voté un texte qui dit très clairement que oui, il y a un changement climatique, qu'il y a une origine humaine certaine et qu'il va falloir rester en dessous des 1,5°C. Juste un point sur cette idée qui me tient à cœur du budget carbone. Vous savez, quand vous avez quand une famille, c'est ce que c'est qu'un budget. Le père et la mère vont gagner telle somme et vous ne pouvez pas dépenser plus. Notre monde, au niveau mondial, ne peut pas dépenser plus de 420 gigatonnes de dioxyde de carbone, qui n'est que l'un des gaz à effet de serre, d'ici 8 ans et demi. C'est notre enveloppe. Et cette enveloppe-là, ensuite, il va falloir la décliner état par état, ce qu'on fait déjà en droit français, mais de manière un petit peu timide. Et ensuite, il va falloir la décliner jusqu'au niveau des citoyens. Ça, c'est une réalité.
Dire, c'est que de même qu'on a un budget tous les mois de 1 000 euros, on va aussi avoir un budget 2000 tonnes ou 1000 tonnes de carbone par foyer par an.
Exactement. Et c'est ce qu'est venu dire cet adolescent dont on parlait
ça
tout
existe
à
un peu. Ça commence à exister, on en parlait pendant le sujet.
Oui, ça existe en droit déjà.
En Suède.
Oui, et en Allemagne aussi. Et en droit français aussi, il y a cette idée de budget carbone au niveau de l'État. Donc ça ne nous concerne pas trop, nous, citoyens.
Chaque citoyen se verra accorder un droit à polluer de 10 000 tonnes de CO2 par an.
Ça ne sera peut-être pas aussi simple, mais chaque entreprise, chaque collectivité, effectivement, devra savoir à un moment donné qu'elle peut dépenser tant si on veut être sincère avec l'objectif des 1,5°C.
Françoise Vimeux, une question sur le fait que tous les pays vont être touchés par le réchauffement climatique. Est-ce que néanmoins, il y a... On peut considérer qu'il peut y avoir une température idéale et que la Russie, si elle prend ou dans en Sibérie, si la température monte de 1 ou 2 degrés, ça peut peut-être avoir des aspects positifs. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des pays qui peuvent, sous certains aspects, pour l'agriculture, par exemple, bénéficier de ce réchauffement climatique, alors que pour d'autres, ce sera terrible. On peut penser que les pays du Sud vont être encore plus asséchés.
Mais en fait, ce qu'on montre, c'est que dans les années qui viennent, il n'y a pas que des catastrophes qui sont liées au changement climatique. Il peut y avoir des bénéfices pour l'agriculture, par exemple, dans certaines régions. Et donc, effectivement, localement ou régionalement, les gens peuvent se dire « Ah bah tiens, c'est pas mal ». D'ailleurs, au mois d'octobre, quand vous êtes sur les terrasses à Paris et qu'il fait plutôt bon, vous trouvez que c'est agréable. Personne m'a dit « Oh là là, c'est terrible ». Enfin, ça va peut-être commencer à venir. Mais... Donc, moi, je crois que c'est vraiment un problème mondial et que même... Si régionalement, pendant un moment donné, parce qu'on montre qu'à la fin du siècle, il y a quand même moins de bénéfices que de risques pour l'ensemble des pays, c'est vraiment un problème mondial. Et la question, elle est peut-être plus entre les pays développés et les pays en cours de développement ou pas développés, qui pourraient très bien dire, mais pourquoi moi, je ne pourrais pas me développer de la même manière, ou avec plus de contraintes, ou avec des contraintes drastiques même.
Alors que vous, les pays riches, avez pollué pendant plus d'un siècle.
Donc je pense que le débat ou la question, l'éthique, elle est plutôt sur ces aspects-là. Et là, c'est pas évident, j'ai pas de réponse, moi.
Alors, la militante suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, était donc invitée à l'Assemblée nationale à midi. Sa visite a suscité beaucoup de critiques, principalement dans les rangs de la droite. Pourquoi cette jeune militante dérange-t-elle autant qu'elle fascine? Son portrait avec Mélanie Nunes et Maxime Liogier.
37 degrés à l'ombre du Palais Bourbon. Est-ce que tout va bien ?
Oui, ça va. En pleine canicule, Greta Thunberg est l'invitée d'honneur d'un débat autour du réchauffement climatique. Une icône atypique, militante suédoise de 16 ans, déscolarisée et diagnostiquée autiste Asperger. Devenue en quelques mois un symbole mondial de l'écologie pour toute une génération, un combat qui force le respect de certains parlementaires.
Greta n'est pas une scientifique, Greta est une adolescente, médiatisée parce qu'elle a une aura, parce qu'elle a du charisme, parce qu'elle a des convictions.
C'est un symbole fort. Mon fils de 14 ans, Pablo, a fait sa première manif à l'appel de cette jeune qui a réussi à mettre à la face du monde l'urgence qu'il y avait d'une mobilisation citoyenne.
Mais Greta Thunberg bouleverse les codes, son âge et son discours jugé alarmiste dérange.
Pourquoi elle et pourquoi pas d'autres ? J'aurais préféré moi écouter un grand scientifique sur l'état de la planète et les risques qui sont ceux aujourd'hui qui menacent notre société, plutôt que cette égérie qu'on promène dans toute l'Europe et même dans le monde entier et à qui on fait dire une récitation.
Je suis très gênée par Greta Thunberg parce que c'est une jeune fille qui a arrêté l'école. Et moi je pense aux 66 millions de filles aujourd'hui qui sont privées d'école, qui pourraient trouver des solutions pour que justement demain soit meilleur. Et Greta Thunberg est un contre-message.
Simpliste, manipulé, opportuniste, les critiques pleuvent.
Bonjour, je m'appelle Greta Thunberg et merci pour l'invitation.
À la tribune, la jeune fille s'adresse directement à ses détracteurs.
Ils disent que nous, les enfants, nous exagérons, nous sommes des alarmistes. Nous sommes l'objet de haine et de menaces. On se moque de nous, des élus, des chefs d'entreprise, des journalistes mentent à notre propos. Mais dites-moi, que faites-vous ? Et comment allons-nous agir sans sembler alarmiste ? Tout le monde doit être ensemble et lutter en même temps.
Tout a débuté il y a un an à Stockholm. Une lycéenne, cirée jaune sur le dos, pancarte à la main, lance son opération. Grève de l'école pour le climat, tous les vendredis devant le Parlement, elle dénonce l'inaction de son gouvernement.
Nous sommes confrontés à une crise existentielle. Nous ne l'accepterons pas. Nous faisons la grève parce que nous voulons un avenir.
Un message qui résonne, interpelle et fait converger des milliers de jeunes qui s'élancent dans toute l'Europe, comme à Hambourg,
We will continue.
À Berlin ou encore à Paris. Greta Thunberg, figure courtisée, invitée à délivrer son message, elle qui ne se déplace qu'en train. Forum économique mondial de Davos, COP24 ou encore au Parlement européen, en larmes lors de son discours sur les conséquences climatiques. Phénomène planétaire qui part à la rencontre de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, ou encore du pape au Vatican. Dimanche dernier, c'est en France, à Caen, qu'elle reçoit le prix Liberté, très applaudi par des jeunes qui la considèrent aujourd'hui comme une figure inspirante.
C'est impressionnant de la voir en vrai et ça donne vraiment envie de continuer le combat.
Malgré son jeune âge, c'est vraiment un exemple pour tout le monde et je suis près de son âge, j'ai 15 ans. Donc je pense que moi, j'aurais pas été capable d'en faire autant, mais elle a eu le courage de le faire.
Et pourtant, l'égérie se défend d'être une célébrité.
Je ne pensais pas être si connue et publique. C'est quelque chose qui est arrivé sans que je m'y attende. Cette notoriété, être reconnue dans la rue, c'est parfois compliqué à assumer.
Cette année, le nom de Greta Thunberg a même été proposé pour le prix Nobel de la paix.
Alors, question téléspectateur, pourquoi cette jeune fille est-elle dérangeante pour certains politiques, Bruno Jeudy ?
Alors, certains politiques, on voit, d'ailleurs, c'est pas seulement en France, que c'est globalement plutôt côté populiste, on l'a vu, l'extrême droite, il y avait Louis Alliot, et puis une partie de la droite, pour des raisons d'ailleurs un peu diverses et différentes d'un mouvement à un autre, mais globalement, c'est plutôt sur l'échiquier droit qu'elle dérange plus
que le reste de la classe politique.
Mais il y avait aussi un petit peu dans La République en marche, et c'est intéressant parce que ça correspond bien à cette ambivalence de ce mouvement. Je crois qu'elle dérange aussi pour différentes raisons. Ça a été dit par la députée Valérie Boyer, je crois. crois. Il y a le fait qu'elle est, elle a décidé d'arrêter l'école. Ça, je pense que c'est quelque chose qui frappe beaucoup les gens, qui se disent, mais bon, est-ce que, même si c'est une cause noble et qui mérite de se battre, est-ce que arrêter l'école à 16 ans, c'est bien raisonnable? Et ça renforce le côté peut-être un peu gênant chez cette jeune fille, un peu d'une personnalité un peu étrange comme ça, et qui fait dire, là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment, on tombe dans l'attaque bas de gamme. Elle a été qualifiée de, parce que c'était un déchaînement, de gourou, de prophétesse en culotte course, de Jeanne d'Arc du climat, d'ado
prix Nobel de la peur,
prix Nobel de la peur, Justine Bieber de l'écologie. Enfin, je les ai relevés. C'est un déchaînement. Il y a eu pendant 72 heures.
Mais pourquoi? C'est surprenant.
Alors, il y a des raisons qui sont pas très nobles chez les Républicains, s'agissant des deux principaux qui se sont déchaînés. C'est un peu lié à la petite compétition qu'il y a pour la présidence du parti. C'est pas glorieux et on les oubliera vite. L'extrême droite, c'est assez classique. Ils sont toujours fustigés ce genre de mouvement un peu mondialiste. Donc là, on est plutôt, j'allais dire, dans leur registre habituel. Et puis, il y a aussi le côté, peut-être au fond, il y a le côté donneur de leçons au pouvoir en place, qui évidemment mettent les politiques mal à l'aise, parce que quelque part, aujourd'hui, dans son discours, moi j'ai trouvé plutôt étonnante et même assez épatante aujourd'hui ce qu'elle a fait le numéro. Parce
pourquoi
que, bah, quelque part, on l'attendait un peu plus en donneuse de leçons, et au fond, elle s'est plutôt réfugiée derrière l'idée, eh bien, peut-être que ça vous dérange, ceux qui ne sont pas venus parce qu'on est des enfants, mais ce qui compte finalement, c'est de s'unir derrière les scientifiques.
Lisez les rapports des scientifiques, messieurs les politiques.
Elle a même demandé qui lit. Enfin, c'est plutôt la personne du GIEC qui l'a demandé. Donc, elle s'est appuyée en véritable porte-parole des scientifiques et du GIEC. Et de ce point de vue-là, au fond, ce qui compte le plus que l'émetteur, c'est peut-être le message qu'elle vend. Et de ce point de vue-là, à mon avis, elle rend un grand service à madame qui est à ma gauche.
Mais justement, Françoise Vimeux, il y a eu beaucoup de critiques en disant, bah, écoutez, à l'Assemblée nationale, on préfère écouter des climatologues, des scientifiques qui savent précisément de quoi ils parlent, plutôt qu'une militante de 16 ans, dont on se demande d'ailleurs si elle n'est pas manipulée ou sous emprise. Alors Françoise Vimeux, pourquoi est-ce que ce n'est pas vous qu'on a entendu cet après-midi à l'Assemblée nationale ?
Je ne sais pas, je n'ai pas été invitée. Après, je pense qu'on a des collègues qui viennent parler devant le Sénat, par exemple. Valérie Masson-Delmotte est allée faire un rapport au Sénat sur le dernier rapport du GIEC. C'est moins médiatisé. Alors peut-être que je vous retourne la question. Pourquoi nous ne médiatisons pas autant quand c'est un scientifique qui
va
parler ? Mais
vous comprenez la critique ?
Ensuite,
vous comprenez la critique, j'ai compris. Pouvez être jalouse vous.
Ah non,
non.
Alors là, je crois qu'il faut être très clair. Ces jeunes, moi, je trouve ça formidable et rassurant de voir qu'ils ont compris l'alerte des scientifiques de manière générale. Je trouve ça rassurant qu'ils s'emparent du problème, qu'ils se fassent donneurs d'alerte et qu'ils se fassent le relais. Moi, je trouve ça formidable. Ils s'appuient sur les faits scientifiques. Hein. Ils n'inventent pas des faits X ou Y. Donc moi j'ai aucun souci à ça. Et je crois qu'on oublie que les scientifiques sont derrière. Et voilà. Et encore une fois, c'est moins populaire, moins médiatisé, etc. Je rebondis sur ce qui a été dit sur un point, par contre, qui me gêne dans le discours que j'ai entendu, peut-être pas là mais à une autre occasion, où cette jeune femme dit, mais en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'aller à l'école, au collège ou au lycée parce qu'on n'a pas d'avenir. Et là, je crois que c'est vraiment une erreur, parce qu'on va avoir besoin de personnes compétentes, qualifiées pour le défi du changement climatique. On va avoir besoin, bien sûr, de scientifiques dans mon domaine qui vont continuer à faire de la recherche, mais on va avoir besoin d'ingénieurs qui vont mettre en place des technologies pour peut-être nous adapter au changement climatique. Je pense à la séquestration du dioxyde de carbone. On va avoir besoin d'architectes pour repenser les villes de demain. Donc on va vraiment avoir besoin de qualifications.
Alors justement, Daniel Bois, l'une des critiques, c'est de dire au fond, à part s'indigner, elle n'a rien de très concret à proposer. Et c'est d'ailleurs ce que disait Bénédicte Pérol de La République En Marche, du camp macroniste, qui dit, bah voilà, on l'écoute et c'est une caution pour l'inaction. Après, on ne fait rien, on a écouté, on s'est indigné. On s'est indigné tous ensemble.
Je ne crois pas, moi je l'ai écouté en fait. On s'attendait à entendre ce qu'avaient dit certains politiques de droite, à ce qu'elle ait un discours d'apocalypse, etc. Le monde va s'écrouler. C'est justement le contraire qu'elle a fait. Elle a commencé par dire, il y a une bonne nouvelle, il n'y aura pas d'apocalypse demain. Elle a commencé là-dessus, c'était quand même assez frappant. Et ensuite, tout son discours n'a pas été du tout un discours personnel, mais un discours de délégation. C'est-à-dire, moi, enfant, elle se présente comme une enfant toujours, hein, vous avez remarqué.
Et alors, pas comme une jeune, c'est-à-dire ?
Non, elle a dit toujours les enfants, elle n'a jamais dit les jeunes. Et puis, regardez comment elle apparaît avec une tresse. Vous avez déjà vu beaucoup de jeunes filles de 16 ans avec une tresse. Donc, elle parle au nom des
Est-ce
enfants.
Elle n'en joue pas de ça, justement, de son
apparence. Elle en joue, bien sûr. Elle en joue, on est
Moi,
d'accord.
Je suis frêle, mais... petite, vous êtes obligée de m'écouter.
Bon, il y a un petit peu de ça, j'avoue. Mais il n'empêche que tout son discours n'a pas été « voilà ce que j'ai à dire ». Encore qu'elle nous a cité des passages du GIEC que tout le monde ne connaissait pas. Mais tout son discours a été de dire « il faut écouter les scientifiques ». C'est une incitation à écouter les scientifiques. Et d'ailleurs, Valérie Masson-Delmotte était là. Elle a pris la parole en second après elle. Elle la soutenait. Donc c'est une espèce de relais. Elle a voulu jouer le rôle de relais. Donc voilà, c'est assez modeste finalement comme posture. Donc ça ne justifie pas, à mon avis, ce torrent de critiques acerbes de la part de la droite. Juste une chose sur laquelle il faut revenir, droite-gauche, il ne faut pas oublier...
Alors justement, droite-gauche, oui, parce que la critique, c'est surtout la droite. Ça veut dire qu'il y a un clivage politique. Bon. Mais à droite, on est quand même moins écolo, quoi. Caricature.
Mais ce n'est pas la question d'écolo. C'est par exemple, quand vous posez la question, est-ce que le réchauffement climatique, c'est un phénomène anthropique dû aux hommes ou un phénomène dit naturel? Quand vous posez cette question, on la pose dans les enquêtes qu'on fait avec l'ADEME, vous avez une césure gauche-droite. C'est-à-dire que les gens de droite, républicains ou d'extrême droite, ont davantage tendance à répondre « oui, c'est un phénomène naturel ». Et quand on écoute le discours à travers les questions, c'est « oh ben, ça c'est toujours, il y a toujours eu, etc. ». C'est un discours qui est plus fréquent à droite et à l'extrême droite et chez les gens les plus âgés. Donc voilà, ça existe, il y a vraiment une césure. Et ce qui s'est passé, c'est un peu un reflet de ça quand même.
Arnaud Gossement, son fait d'arme, Greta Thunberg, c'est qu'elle est allée à Davos, mais contrairement à tout le monde, elle n'y est pas allée en avion, elle y est allée en train depuis la Suède. Est-ce que ça, ce n'est pas son vrai message, c'est de dire c'est aussi à soi-même de changer son style de vie. Et on revient tout à l'heure, l'écologie, c'est aussi une contrainte que je m'impose. Et d'ailleurs, elle l'envisage d'aller à l'ONU, qui est à New York, sans prendre l'avion. Donc, je ne sais pas comment elle va y aller, en bateau, probablement. Enfin, là, traverser l'Atlantique, c'est plusieurs semaines.
Elle a, pour reprendre aussi le terme de votre question tout à l'heure à Bruno Jeudy, en fait... Elle dérange le politique et elle ne le dérange pas du tout. Elle dérange le politique parce que ça fait des années que le politique écrit dans toutes les conventions internationales et dans notre Constitution qu'il faut lutter contre le changement climatique pour les générations futures. Or, elle, en tant qu'enfant, elle se présente et elle dit « les générations futures sont devant vous ». Donc là, maintenant, ça suffit de dire qu'il faut faire du droit, des règles pour dans 50 ans. C'est aujourd'hui que ça se passe. Donc c'est la première chose et objectivement... ils se sentent un peu démunis de ce point de vue-là sur la réponse à apporter par rapport au fait que les générations futures sont présentes. La deuxième chose, c'est qu'elle dit, je traduis, mais je comprends, la politique des petits pas qui permet de vexer personne, qui permet de faire du consensus, du compromis, c'est plus possible. Il va falloir une forme de radicalité et ça va secouer. Et ça aussi, effectivement, c'est nouveau qu'une personne sur la scène internationale le dise. Donc de ce point de vue-là, elle dérange le politique. Mais en même temps, regardez, ils se bousculent tous au portillon pour l'accueillir. Davos, c'est une exception dans son parcours. En réalité, c'est ce que je lui reprocherais un petit peu, c'est qu'elle s'adresse surtout aux politiques. Et lorsqu'elle interpelle le politique, les politiques sont toujours enchantés. Aujourd'hui, par exemple, j'ai été frappé, elle est à l'Assemblée nationale. Elle interpelle le politique de manière parfois un petit peu dure, en disant « vous devriez vous inquiéter, il n'y a pas pire que les politiques qui ne tiennent pas leurs promesses ». Parfois, elle a un discours un peu dur, voire limite trop dur, je trouve, parfois, parce que ça pourrait être exploité par certains au motif de « ils ne font rien, tous pourris », etc. Elle n'en est pas là. Mais en tout cas, elle a ce discours-là. Et qu'est-ce qui se passe dans la salle? La secrétaire d'État, qui devrait se sentir mise en cause, pas du tout. Brune Poirson prend la parole en disant qu'elle se réjouit de ce discours-là, qu'on a besoin de gens comme ça pour les secouer, eux, politiques. C'est grâce à elle que les politiques iront mieux. En fait, de Barack Obama jusqu'à Brune Poirson, ils sont tous très contents. Ils se bousculent, au contraire, pour poser à côté d'elle. Donc, elle n'est pas... C'est là, dans la limite de l'action, c'est qu'elle interpelle des gens qui ne se sentent pas interpellés en réalité, mais qui se sentent au contraire flattés par sa présence. Richard Ferrand n'a quand même pas brillé dans son passé par ses engagements écologistes, et il est là à recevoir cette jeune fille dans le jardin de
l'Est. Macron l'avait reçu lors de son passage précédent, lors de son passage précédent à Paris, et on voit bien aussi qu'il y a l'idée chez les politiques de s'afficher à côté de l'icône actuelle de l'écologie.
On a son tampon Greta Thunberg compatible.
Les politiques sont d'abord des gens qui ont besoin de séduire ces personnalités. Et
je voulais revenir sur un point. Quand elle dit « moi, je ne prends plus l'avion », c'est quand même il faut se dire que je ne prends plus l'avion. Nicolas Hulot, je suis sûr que... Enfin, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ça...
Il prenait l'hélicoptère pour ses émissions. Voilà. Il avait quelques 4x4
chez lui. Il a une collection de voitures, non, dont un 4x4. Alors, je ne sais pas s'il l'a toujours. Mais l'écologie, c'est... On a beau le prôner, il faut aussi se l'imposer. Et c'est peut-être son message.
Oui, c'est vrai que c'est sans doute la différence avec peut-être les icônes précédentes. Nicolas Hulot a été une icône de l'écologie en France.
En hélicoptère et dans son 4x4.
C'est la personnalité qui...
séduit 75% des Français et qui reste, malgré les difficultés de sa vie politique, il reste aujourd'hui très populaire. Et malgré les critiques qu'il a reçues, notamment sur l'utilisation de 4x4, il avait mis ça dans sa déclaration de biens personnels lorsqu'il est devenu ministre. C'est plutôt quelqu'un qui prend l'avion comme tout le monde quasiment. C'est vrai que cette génération, la génération de Greta Thunberg, quelque part s'applique peut-être ce que nous allons devoir vivre. D'ailleurs, dans le sondage ce week-end, il y avait quand même... les Français commencent à y réfléchir. Il y avait presque 6 Français sur 10 qui se disaient prêts à utiliser moins l'avion. Franchement, on aurait posé la question il y a quelques années. Je pense qu'il n'y en aurait pas eu autant. Ça commence, mais c'est nouveau.
Ça bouge doucement.
D'ailleurs, ça bouge surtout. C'est-à-dire qu'ils sont prêts, les Français, à consommer moins d'eau, consommer moins d'électricité.
Écoutez, en
Ile-de-France, la seule chose où ils ne sont pas prêts du tout, il y a seulement 18% qui sont prêts à accepter des taxes sur les carburants. Ça, c'est vraiment la seule chose qui ne passe pas. Le reste, au fond, on voit bien qu'il y a une évolution. Alors, il faut voir le passage à l'acte. Mais quand même, dans les enquêtes, on voit qu'il y a une vraie...
une évolution.
Un éveil des Français à cette idée d'écologie, même si au niveau de la planète, quand il y a des études qui sont faites au niveau international, alors là, franchement...
C'est encore plus bas.
C'est très très bas. Il y a moins
En Chine, on veut gagner un peu d'argent avant de penser à abandonner son 4x4.
Il y a moins de 20% des citoyens qui estiment que l'écologie est le défi majeur du pays dans lequel ils vivent.
Alors, face à la supposée inaction du monde politique, une organisation britannique a choisi de passer à l'action. Cette organisation s'appelle Extinction Rebellion et son but est de sensibiliser l'opinion en menant des opérations spectaculaires mais non violentes. Nos reporters Juliette Vallon et David Lemarchand ont suivi ses membres à Plymouth, en Angleterre.
Un peu en contrebas du phare de Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre, certains profitent déjà de l'été dans cette petite station balnéaire. Sans savoir qu'à quelques centaines de mètres de là, la vie vient de s'arrêter dans le centre commercial de la ville.
Come on, folks, move along out there, move along. Nothing to see here, just a little bit of mass extinction.
Ce jour-là, une centaine de militants d'Extinction Rebellion font un happening pour alerter les citoyens sur l'importance de la crise climatique. Paris réussit, de nombreux passants s'arrêtent, surpris par leur action.
C'est pacifique, ils font entendre leur message et ils aident les gens comme moi à porter plus d'attention à cette cause, à être plus vigilante. C'est de ça qu'il s'agit, obliger les gens à nous accorder de l'attention en les arrêtant dans leur quotidien. Quand on s'allonge par terre au milieu d'un centre commercial, on perturbe le mouvement normal des gens qui ne peuvent plus faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont obligés de nous écouter. C'est de ça dont a besoin la cause du climat et elle en a besoin maintenant.
Sur les pancartes des militants, le logo du mouvement, un sablier inséré dans un cercle représentant la Terre pour dénoncer l'inaction des politiques face à l'urgence du réchauffement climatique.
Le gouvernement ne fait rien, car il est obsédé par le Brexit. Sauf qu'il n'y aura pas de Brexit sur une planète morte, et donc il faut se bouger. Il n'y a pas assez d'actions ou d'engagements qui sont pris. Et je pense que le seul moyen de faire en sorte que ces actions soient réalisées, c'est de se mobiliser et de montrer à quel point on tient à notre planète.
Se faire entendre jusqu'à bloquer l'une des plus grandes villes du monde, Londres. Comme en novembre dernier, lorsque les militants d'Extinction Rebellion ont paralysé 5 ponts de la capitale britannique. L'occasion pour ce mouvement, né en 2018 au Royaume-Uni, de se faire connaître dans le monde entier avec 3 revendications principales. Exiger des dirigeants politiques qu'ils reconnaissent la vérité sur l'urgence climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et créer des assemblées citoyennes pour participer à cette transition écologique. Extinction Rebellion, un mouvement qui place surtout la non-violence au centre de son action, jusqu'à former ses militants à la désobéissance civile. Ce soir-là, quelques rebelles, comme ils se surnomment, participent à un petit entraînement autour d'Andrew.
Bon, qui veut faire les manifestants? Toi, tu veux faire un automobiliste? Ok, alors les manifestants là et les automobilistes de ce côté, d'accord?
Objectif, apprendre à garder son calme face à des citoyens opposés à leur blocage, pacifiés pour mieux fédérer.
On a besoin du soutien du public car nous vivons dans une démocratie. Si on n'a pas ce soutien, quand la police nous interpelle, les gens peuvent se dire « Ah bien, débarrassez-nous de ces militants !» Alors que si vous agissez de manière calme et respectueuse, on peut vraiment avoir une discussion sur le changement climatique.
Des militants prêts à tout pour leur cause, y compris à sacrifier un peu de leur liberté.
J'ai des enfants, des petits-enfants, et l'idée de ce qu'il peut se passer dans le futur, un futur très proche, c'est terrifiant. Alors franchement, passer une nuit en prison, c'est vraiment rien comparé à ce qui nous attend.
La désobéissance civile, nouvelle arme des militants pour le climat, avec quel résultat ? Au printemps dernier, le Parlement britannique a voté l'urgence écologique et climatique dans la foulée d'une nouvelle action d'Extinction Rebellion. Une première mondiale. Pour cette députée verte britannique, le mouvement a réussi à placer sa cause en haut de l'agenda politique en pleine crise du Brexit.
Ces six derniers mois, on a aussi vu beaucoup d'élus locaux partout dans le pays déclarer aussi des motions similaires sur l'urgence de la situation climatique. Ce qui a amené il y a quelques semaines Theresa May à prendre l'engagement d'arriver à zéro émission de carbone d'ici 2050. On accueille toutes ces avancées. Ce sont des petits pas qui nous font progresser.
Aujourd'hui, Extinction Rebellion est suivie par plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux et a essaimé dans une quarantaine de pays, dont la France.
Alors, Bruno Jeudy, il faut s'attendre à un durcissement comme ça des actions et des mouvements contre le réchauffement climatique ?
En tous les cas, le ministère de l'Intérieur s'y prépare. Il y a eu une action assez spectaculaire au mois de juin sur le pont Sully à Paris de ce mouvement Extinction
Rebellion. Voilà, on voit là, quand
Rebellion.
Les CRS ont envoyé voilà. du gaz lacrymogène.
Et on en a beaucoup parlé parce que pour les déplacer ce groupe qui s'était installé, il y a eu utilisation de gaz lacrymogène de manière spectaculaire par la police et ça donnait lieu à une polémique derrière sur cet usage un peu violent sur des militants au fond qui étaient assis, enchaînés, qui ne voulait pas bouger. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, s'attendait à ce que ce mouvement récidive au moment du 14 juillet, lors du défilé. Il surveillait ça, parce qu'il y a plusieurs mouvements qui sont surveillés. Il y a les mouvements Extinction Rebellion, plutôt environnementalistes. Il y a aussi les mouvements autour de protection des animaux, les spécistes aussi, qui inquiètent beaucoup les pouvoirs. Il y a toute une série comme ça de mouvements qui durcissent les actions et qui, effectivement, font que la police se prépare à intervenir pour pouvoir empêcher ces mouvements, soit de bloquer des coins de grandes villes, ou de procéder à des actions extrêmement spectaculaires.
Pour l'instant, non violente, on pourrait s'attendre à des...
Non violente, alors, mais justement... on voit bien qu'il y a un pont peut-être aussi vers des mouvements qui avaient existé il y a quelques années, hein, les mouvements antimondialistes dans les années 90-2000, ouais. qui étaient extrêmement présents et extrêmement violents, avec sa branche, enfin une autre branche, Black Bloc, qui elle a beaucoup fait parler d'elle, notamment autour des G20 il y a quelques années.
On pourrait avoir des black blocs du climat qui en viendraient à des actions violentes. Pour l'instant, il y a des happenings.
En tous les cas, en France, les autorités s'attendent à un durcissement et voient bien monter ce type de mouvement et s'en inquiètent.
Voilà. Daniel,
c'est une hypothèse possible.
Certaines parlent de Khmer vert. Hein.
Alors, bon, c'est l'idée d'une radicalisation du mouvement, c'est possible. L'idée qu'ils prennent... qu'il englobe un petit peu les mouvements anti-mondialisation qui, eux, ont été assez efficaces au moment des G7, etc. C'est pas impossible non plus. Il y a une différence quand on parle de la violence quand même, hein, c'est qu'ils mettent au premier plan la non-violence et la désobéissance civile. Ce qui n'est pas du tout l'affaire de ceux qui manipulent, qui font des manifs contre le G7, hein, ça n'a rien à voir. Donc s'ils sont toujours dans ce mood de non-violence et de désobéissance civile, c'est assez différent. Alors quant à leur méthode, je ne dirais pas qu'ils n'ont rien inventé, mais les méthodes, par exemple, qu'a utilisé Greenpeace depuis 15 ans, c'est à peu près les mêmes. Apprendre aux adhérents à se comporter telle ou telle façon vis-à-vis de la police, y compris physiquement, c'est Greenpeace qui l'a montré ça en premier. Donc ça reprend des techniques, je dirais, de manifestation et d'action spectaculaire qui ont été inventées par Greenpeace et par d'autres. Et l'idée, bien entendu, mais elle est multipliée aujourd'hui, c'est que quand vous faites quelque chose de spectaculaire, bah, c'est repris, et plus seulement par la télévision, mais par les réseaux sociaux, on l'a partout sur le web. Donc ça multiplie les actions, et le côté spectaculaire, il est vraiment payant maintenant.
Parce qu'ils ont obtenu des résultats. Le 1er mai... La Grande-Bretagne a décidé l'état d'urgence écologique. Alors, c'est pas très bien ce que ça veut dire,
bah, non,
mais ça a été
vraiment,
voté par le Parlement.
Édouard Philippe, ça n'a pas été voté, mais Édouard Philippe l'a érigé en priorité absolue. Il a parlé d'urgence écologique.
écologique lors de son discours de politique générale au mois de juin.
Et Arnaud Gosselin, on voit plus loin, on voit même les pays, alors et même la France, hein, il y a des attaques pour faire condamner les pays pour inaction écologique. Les Pays-Bas, notamment, l'ont subi, et la France aussi.
Oui, il y a plusieurs choses qui me frappent dans ces mouvements. D'abord, effectivement, le fait que leur cible, ça reste les États. Et là, je suis assez sceptique. Je pense effectivement que c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure. Les États, lorsque vous vous adressez à eux, c'est une fiction, c'est personne, l'État. Et le politique en particulier ne se sent jamais interpellé à titre personnel par ce type de mouvement.
Sur le pont de Sully, il aurait fallu aller alerter les citoyens et pas forcément...
Non, il faut agir sur plusieurs fronts. Il faut à la fois désigner peut-être plus précisément les personnes qui vous paraissent devoir être critiquées dans leur comportement, et, ou les entreprises ou les organisations, être plus précis dans les revendications aussi. Ça, c'est le deuxième point faible. Lorsque vous dites « ma revendication, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre », tout le monde est d'accord. Ça permet effectivement à des politiques parfois de dire « état d'urgence écologique ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. Mais on a effectivement des niveaux de déclaration dans notre droit qui sont assez inquiétants parce que ça ne veut rien dire de manière concrète. Et troisièmement, c'est quelque chose qui caractérise ces mouvements, moi qui viens du mouvement ONG, c'est qu'à l'époque, et pourtant je n'ai pas l'impression d'être si vieux, mais il y avait des associations avec un périmètre bien défini, une assemblée générale, il y avait des élus, etc., etc. Là, en fait, on ne peut pas les comparer à ce qu'on connaît en matière d'associations et de partis politiques. Ce sont des mouvements totalement protéiformes, oui, avec des gens à l'intérieur. En fait, Extinction Rebellion, c'est une marque. Mais quand vous regardez ce que disent les gens à l'intérieur, ils ne sont même pas tous d'accord entre eux, notamment quand vous abordez la question économique, ils ne sont pas d'accord entre eux. Entre l'accompagnement du libéralisme économique et le fait d'être en totale rupture, ils communiquent sur Facebook, ce qui n'est pas complètement
nébuleux.
Oui, en fait, on voit bien qu'on ne peut pas juger en fait, ces mouvements qu'on pourrait juger d'une association avec un nom fixe d'adhérents, un programme bien particulier. Ça ne s'appréhende pas comme ça. C'est ça qui inquiète le pouvoir politique avec des réactions, à mon sens, disproportionnées, comme sur le pont de Sully. Objectivement, ces gens, peut-être, n'avaient pas le droit de manifester. Enfin, il y avait 100 personnes, etc.
Ils ont obtenu, en tous les cas, la sympathie du public. Hein,
oui, qui et puis a pris même l'un des CRS qui était là a été asphyxié lui-même, comme l'a révélé Mediapart par les gaz. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, le problème de l'État, c'est de se dire comment je contrôle ça, alors qu'effectivement, c'est nébuleux et protéiforme.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, l'urgence climatique est là. Mais la méthode pour y faire face y est-elle, Daniel Bois? C'est ça le problème. On n'a pas le
la méthode. Si on parle des politiques, la méthode elle est complexe parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut agir dans plein de domaines à la fois, alors que les politiques sont habitués à agir pour le temps présent, peut-être le temps de l'élection, et dans des domaines bien séparés qui sont l'énergie, d'accord, mais aussi les finances, mais aussi le social, etc. Et donc arriver à cette vision globale.
Donc un quinquennat, c'est prendre des décisions désagréables dont je ne verrai pas les résultats positifs.
Voilà, et c'est agir globalement sur un problème absolument global, et ça, les politiques, on n'a pas vraiment le mode d'emploi. Donc les politiques publiques dans le domaine de l'environnement, bien sûr, on peut penser taxe carbone, on peut penser des choses, mais en fait, il y a une espèce d'impatience des militants et du public consiste à dire qu'il faut faire quelque chose d'énorme contre ce réchauffement climatique.
Et au niveau mondial.
Et au niveau mondial. Et les politiques disent « Attendez, je suis en train de faire ce que je peux avec un problème qui me dépasse considérablement. »
Oui, mais encore une fois, je me répète, hein, mais dans le dernier rapport du GIEC, il y avait un état des lieux, mais il y avait aussi des propositions qui étaient faites pour ne pas dépasser 1,5 degré. Et c'était des propositions concrètes, avec certes des paris technologiques, des paris sur l'économie. Ouais. Mais là encore, finalement, j'inviterais effectivement les politiques à venir lire.
Des paris technologiques. On peut imaginer une découverte fantastique, quelqu'un qui serait capable d'absorber tout le CO2 dans l'atmosphère et de le stocker dans des bâtons qu'on enfouirait sous terre.
En fait, ça existe presque déjà. On travaille sur la séquestration du dioxyde de carbone. La technique aujourd'hui, elle n'est pas particulièrement au point, mais on peut imaginer que devant l'urgence climatique, on va former des gens intelligents qui vont réfléchir à comment faire, et on va donner des moyens sur ces techniques, sur ces technologies.
Donc la technologie pourrait nous sauver. Hein.
Je pense que sur certains aspects, enfin c'est un aspect qui paraît incontournable.
Qui est le plus instrumentalisé, un député qui écoute le lobby pétrolier ou une adolescente lanceuse d'alerte? Bruno, je dis.
Vaste question des lobbies. Les lobbies pétroliers auxquels vous faites allusion sont évidemment très actifs et sans doute jusqu'à
Nicolas
présent...
Hulot en a beaucoup parlé dans...
Oui, et ils ont été sans doute beaucoup plus efficaces que la seule Greta Thunberg jusqu'à présent, qui effectivement a créé un beau charivari depuis 3 jours. Mais ça fait des années que pour l'instant, les défenseurs de l'écologie plaident un peu dans le désert, y compris en France, qui n'est pas le pays le plus en retard en la matière. Faut-il toujours le répéter? On a émissions
1%
comme ça.
1% des émissions mondiales de CO2,
voilà,
la France.
Et la France fait des efforts, sans doute pas assez comme la plupart des pays, mais elle fait des efforts.
C'est vrai que quand on se dit ça, 1% des émissions mondiales de CO2, on se dit alors, à quoi bon travailler si les 99% ne font rien ?
Mais il faut travailler collectivement, c'est un problème mondial. La solution, elle vient de manière globale. Et ce n'est pas parce que le voisin ne fait pas qu'il ne faut pas faire. Ça, ce n'est pas une bonne solution.
Quel est le bilan d'Emmanuel Macron sur la lutte contre le réchauffement climatique ? Daniel Bois, vous avez l'air d'être embêté par cette question.
Non, je ne suis pas embêté par la question, je suis embêté par la réponse à donner. C'est une vraie question, c'est une bonne question. On a eu l'impression qu'il y a eu quand même des allers-retours, un petit peu, une certaine ambiguïté. Au départ, il n'y avait pas grand-chose dans le problème de Macron sur l'écologie. Il s'est rendu compte, alors le coup de Nicolas Hulot, effectivement, c'était une bonne affaire politique. Au bout d'un an, ça ne marche pas. Donc il faut trouver autre chose. Je ne fais pas la liste des problèmes qu'il y a eu récemment. Donc il y a... Alors, quelquefois, il y a des actions, on se dit où c'est de la poudre aux yeux, où c'est quelque chose de sérieux. Le Haut Conseil pour le climat, c'est quelque chose de sérieux à mon sens. Un conseil de défense écologique, bon, il y a des actions comme ça. Le bilan, il est un peu tôt pour le faire. Pour l'instant, je dirais qu'il est partagé, il est moyen. Hein.
Moi, je pense en tous les cas que c'est très important cette question. Daniel Bois a raison. Emmanuel Macron pourra avoir tous les résultats qu'il veut sur le plan économique, sur le chômage, sur différents fronts, et peut-être en aura-t-il. S'il n'a pas de bilan écologique, ce sera quelque chose qui sera porté à son débit.
Alors, c'est-à-dire qu'il a fait voter la fermeture des centrales fossiles.
Oui, mais il faudra mettre bien autre chose dans son bilan d'ici 3 ans. Parce que d'abord, peut-être que le fait qu'il soit jeune fait qu'on lui pardonnera encore moins que lui, les autres, oui, effectivement, c'était le vieux monde.
C'était pas leur époque.
Ils n'avaient rien compris. Bon, lui, il arrive et c'est vrai que tout de suite, d'entrée, il fait des discours qui portent, qui sont mis à son crédit. Il y a Nicolas Hulot qui est nommé, c'est pas n'importe qui. Ouais. Nicolas Hulot s'en va, il dresse un réquisitoire extrêmement dur sur le bilan et son propre bilan d'ailleurs. Et aujourd'hui, je pense qu'il a besoin d'un bilan, il le sait, il lui faut ce bilan écologique. C'est pour ça que les 3 ans qu'il reste, on voit bien qu'il essaie de voir comment il peut le faire. Il faut quand même rappeler...
Elisabeth Borne est la bonne personne pour porter ce ministère ?
Je ne sais pas si c'est la bonne personne. Pour l'instant, je trouve que ça manque d'incarnation et que cette question, c'est comme ça, elle doit être incarnée médiatiquement. Il a besoin d'une incarnation, il a besoin d'action, il a besoin d'efficacité, mais il a aussi besoin d'incarnation. Je ne sais pas si Elisabeth Borne sera la bonne personne. Dernier point, aux dernières élections, on a vu que le surplus de votants, c'était les jeunes qui étaient venus voter. Ça a porté le vote vert à un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on attendait. Souvenons-nous qu'à la présidentielle dernière, il y a à peu près 2 à 3 jeunes de moins de 29 ans qui se sont dépassés pour aller voter. Imaginez qu'il y en ait 6 ou 7 qui se déplacent.
Ça devient un sujet électoral.
Ça devient un sujet électoral.
Avec Greta Thunberg, on est dans le pire de l'écologie punitive et totalitaire. Ça ne marchera jamais. Alors, c'est une affirmation, Arnaud Gossement, mais c'est vrai que c'est un visage, on va dire, contraignant de l'écologie. D'abord, elle est assez austère. Et puis voilà, c'est je renonce à prendre l'avion. Mais c'est ça l'écologie qui nous attend.
Non, alors. Alors,
sans être totalitaire et punitive.
Ouais, la remarque est quand même un petit peu grossière, mais sincèrement, je pense qu'il faut sortir du problème des personnes. Que ce soit Elisabeth Borne, que ce soit Greta Thunberg, Emmanuel Macron, etc., la question qui nous est posée, c'est celle de la démocratie, de notre capacité à faire des choix collectifs. Greta Thunberg, elle, s'inscrit dans un contexte démocratique. Elle interpelle les politiques, elle leur demande de prendre des décisions. Extinction Rebellion, au contraire, appelle parfois à remplacer ces procédures-là par d'autres, les assemblées citoyennes. Certains, d'ailleurs, membres de ce mouvement, appellent à rompre avec le système démocratique. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, ce n'est pas tellement celle de savoir quelle est la tête de la ministre de l'écologie. Nicolas Hulot a tué le match. Si Nicolas Hulot n'y est pas arrivé, aucun de ses successeurs, aujourd'hui, dans le système actuel, ne pourra y arriver aujourd'hui. C'est un secret de Polichinelle. La vraie question, c'est le système, le circuit de décision. Le changement climatique interpelle ceux qui réfléchissent, les politologues, les juristes, à comment on prend des décisions collectives dans notre pays. Ce n'est pas le problème de personne, encore une fois.
La consommation de pétrole augmente, est-ce utopique de penser qu'on peut sauver la planète sans un changement radical ? Alors elle augmente en Inde, elle augmente en Chine, est-ce qu'il faut interdire les Indiens de rouler pétrole ?
En fait, ce qui est clair, c'est qu'on sait très bien, pour pas dépasser 1,5 ou 2 degrés à la fin du siècle, qu'on doit diminuer de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Et si on attend 2040, il faudra réduire de manière encore plus drastique.
Et là, on ne les diminue pas, ça continue d'augmenter. L'an dernier, au niveau mondial, c'est
voilà,
plus de 2%. C'est,
donc déjà, ça, on le sait. Hein, et donc, on sait que ça va être contraignant et qu'il va y avoir des décisions drastiques. Et plus on attend, et plus ça va être drastique. Ou alors, on choisit de dépasser ces 2 degrés à la fin du siècle. Et là, il y a des conséquences beaucoup plus graves D'ailleurs, je ne pense pas forcément pour nous. Hein. Je pense qu'on n'est pas les premiers à être très fortement impactés par le changement climatique. Vous avez tous les pays insulaires qui voient leurs côtes. Bon, il y a l'érosion, mais aussi la montée du niveau des mers. Donc voilà. Bon, voilà.
Est-ce que vous avez la réponse à quelle est la différence de l'empreinte carbone pour un Paris-New York en avion et en bateau?
Alors, j'ai pas les chiffres, mais je pense vraiment qu'en avion, c'est beaucoup plus.
Voilà. Encore faut-il qu'il y ait des bateaux, d'ailleurs, pour aller aux États-Unis.
La cargo beaucoup pollué. Et des navires de croisière aussi. Hein,
Eh bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. C'est dans l'air sera rediffusé ce soir à 22h40. Je signale que demain soir, à 20h50, ne manquez pas la série documentaire Sale temps pour la planète, où l'on verra les conséquences très concrètes du réchauffement climatique dans les Alpes. Vous verrez, c'est impressionnant. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur France 5.